matin. Les aléas du direct, comme je dis toujours. Bonjour. Vous allez bien? Il est sorti du tombeau. C'est pour ça qu'on a l'espérance. Vous en êtes sûr? Magnifique, hein? Et le Père est là, il marche avec nous, chaque jour, à chaque heure. Vous en êtes aussi convaincus? Magnifique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sylvie. Et je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, ce que je vais vous amener, c'est plutôt une méditation, un témoignage. C'est pour ça aussi que je me suis installée ici devant. Nous allons faire ensemble un bout de chemin et nous allons rencontrer de belles choses. Nous allons voir comment effectivement notre Dieu nous apporte la vie. Cédric disait tout à l'heure, il nous a tissés dans le ventre de notre mère, il nous aime et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. De l'amour de Dieu, de sa puissance, de sa présence dans nos vies. Et comment les Écritures nous fournissent divers exemples de cet amour, de cette présence et de cette puissance. Parce que la présence de Dieu est très importante dans la vie de tous les chrétiens. C'est cette présence qui nous donne la force de faire tout ce que nous faisons. Sans sa présence, nous ne sommes rien. Avec sa présence, nous pouvons tout. Il y a 2 semaines, nous étions au Jet pour le week-end d'église avec Manu Renard. Et Manu Renard nous a parlé de la rencontre de Simon avec Jésus. C'est un peu fort, non, peut-être? Ou c'est moi qui parle fort? Nous a parlé de la rencontre de Simon avec Jésus dans Luc 5, lors de la pêche miraculeuse. Et comment Simon, qui n'était qu'un simple pêcheur, a vu la puissance de Dieu. Il avait pêché toute la nuit, il avait jeté ses filets. Il n'en pouvait plus, quand il est rentré à l'aube, il n'avait rien pris. Ses filets étaient complètement vides, son bateau aussi. Mais Jésus était là. Jésus l'attendait sur le rivage. Jésus est remonté dans la barque avec lui. Jésus est reparti avec lui. Et après cette rencontre, Simon est reparti à la pêche. Enfin, Jésus lui a demandé de rejeter les filets. Et quand il a remonté les filets, il y avait de quoi remplir 2 barques. Simon a été bouleversé par cette rencontre. Il a vu la gloire de Dieu dans toute sa splendeur. Il a vu le miracle. Il a été transformé. Il est devenu le disciple. Le disciple Pierre, qui après a suivi Jésus et à qui Jésus disait « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Lui, le simple pêcheur de poissons, est devenu pêcheur d'hommes. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons un autre serviteur dans le même genre. Il s'agit de Moïse. Moïse était le serviteur auquel Dieu a demandé de faire sortir le peuple d'Égypte. C'est lui qui a pris la tête du peuple pour l'emmener dehors. C'est à lui qu'au chapitre 33 du livre de l'Exode, Dieu dit de partir pour le pays promis. Dans Exode 33, 15, nous voyons que Moïse dit à Dieu, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. » Moïse avait peur. Sans Dieu, il savait qu'il n'était rien. Quand il dit ces paroles, il voulait dire, « Seigneur, si ta présence n'est pas avec moi, alors je ne vais nulle part. Je ne ferai rien sans toi. » Alors Dieu lui a répondu. On voit la réponse dans Exode 33, 14 et 19, où Dieu lui dit, « Je marcherai moi-même avec toi et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Simon, Pierre, le disciple, Moïse, le serviteur, étaient tous deux des êtres humains comme tant d'autres. Ils avaient des qualités, des défauts, ils avaient leur propre caractère. Ils avaient des peurs, des doutes. Pierre avait la réputation d'être colérique. Moïse bégayait. En plus, il était un assassin. Et pourtant, c'est eux que Dieu a choisis. Il les a choisis pour leur confier des missions. Chacun d'entre eux s'est mis en route pour servir. Chacun d'entre eux a obéi. Chacun s'est mis en mouvement. Car pour eux, la présence de Dieu avait une valeur incomparable, une valeur sans pareil. Lorsqu'une église se met en mouvement, lorsqu'elle se lève pour servir Dieu, cela tout commence toujours par 1, 2, 3, puis 4, puis 5 individus qui se lèvent. Comme Simon-Pierre ou comme Moïse, qui se lèvent par obéissance à Dieu et au Christ. La plupart d'entre vous le savent, peut-être pas tous, mais beaucoup le savent, je rentre d'une semaine d'évangélisation en Suisse. Je suis rentrée dans mon assemblée de Suisse pour aller faire une semaine d'évangélisation. Aujourd'hui, c'est de ça que je vais vous témoigner, de comment Dieu nous a conduits dans cette mission, au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Non pas que je me prenne pour Moïse ou pour Pierre, qu'on s'entende bien. Mais Jésus nous a appelés à faire des disciples. Alors je me suis mise en route. Et je ne me suis pas mise en route toute seule. Je suis partie avec Pedro. Alors j'invite Pedro à venir me rejoindre, parce qu'il a aussi plein de choses à nous dire. Alors on va partager tout ça ensemble. Voilà, donc Pedro, je vous présente mon collègue Pedro pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors nous avons deux choses à vous dire aujourd'hui. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que Dieu vous aime.
Génial, Dieu, il a un plan génial pour vous.
Vous le croyez? On vous dit ça comme ça, Dieu vous aime, il a un plan génial pour votre vie. Vous le croyez? Vous le croyez tous? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne le croit pas? Dénoncez-vous, compris pour vous. Non, vous le croyez tous? C'est magnifique alors. Donc nous sommes tous et toutes filles de Dieu. Filles de Dieu le Père, le Créateur de l'univers.
Et ensemble, nous sommes une église en mouvement. Et nous avons pu, cette semaine particulièrement, pu voir, durant toute cette semaine d'évangélisation, des choses qu'on veut partager justement ce matin avec vous.
Durant une semaine, nous avons vu des hommes et des femmes, des aînés, des jeunes, des enfants. Nous avons vu des leaders et des membres d'église qui n'étaient jamais sortis. Nous avons vu des personnes qui avaient l'habitude de témoigner dans la rue et des qui avaient l'habitude de garder le silence. Nous les avons vus se lever ensemble pour porter la bonne nouvelle du salut donnée par notre Seigneur Jésus-Christ.
Nous avons vu aussi une grande église, une église avec un grand E. Plusieurs églises unies et réunies ensemble porter la nouvelle de l'amour de Dieu. Et aussi la nouvelle de que Jésus est mort pour nous tous.
Plusieurs églises ensemble, des églises évangéliques, une église réformée, plusieurs églises ensemble se sont mis en marche. Une église en transmission, c'est ce que nous avons vu. Nos journées types se passaient à peu près comme ça. Elles avaient lieu sur 24 heures. Nous commencions le soir aux environs de 20 heures par un temps de louange, d'enseignement et de prière. Le lendemain matin, nous avions rendez-vous aux environs de 9 heures à l'église pour un temps de prière, de briefing de l'équipe, parce que chaque demi-journée, les équipes étaient différentes. Donc on briefait l'équipe qui allait aller sur le terrain, on priait ensemble, on créait des binômes à l'intérieur de l'équipe. Le but de ces binômes était de faire des binômes hommes-femmes pour pouvoir toucher un maximum de monde, parce que les hommes ont tendance à aller vers les hommes et les femmes vers les femmes. Donc des binômes mixtes, des binômes multigénérationnels et des binômes inter-églises. Donc avant chaque départ, nous recréions les binômes en conséquence. Aux environs de 10 heures, nous partions pour le terrain, sur lequel nous passions une heure et quart à peu près à parler avec les gens. Ensuite, on se retrouvait pour un débriefing. Aux environs de midi et demi, on faisait une pause repas ensemble. Et à 14 heures, on recommençait un briefing, on repartait une heure. et redébriefing et témoignage. Et on avait une pause à peu près entre 17 et 19 heures. 19 heures, on se retrouvait pour le repas du soir et on recommençait. Intense. Une semaine intense.
Parmi les outils que nous avons eus à disposition pour travailler dans cette semaine, je vais vous présenter le flyer, donc une petite description très rapide, hein. Ça s'appelle The Turning, donc c'était le projet d'évangélisation dans le nord et aussi dans le sud de la Suisse. Et dans ce flyer, il y a toute une trame, un script qui nous avait été proposé pour pouvoir aborder les gens dans la rue. Bien évidemment, sachant qu'il y a le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous guidait. Ce n'était pas juste apprendre ça par cœur, mais c'était une proposition avec une démarche très précise, avec un script, une trame à suivre, qui était particulièrement intéressante parce qu'elle est au vif du sujet. Nous permettait vraiment de nous présenter et entrer vraiment dans le vif du sujet. Dans le flyer aussi, il nous avait été proposé des prières, type bien sûr, des prières de bénédiction pour ceux qui voulaient qu'on prie pour eux, des prières de salut pour ceux qui voulaient éventuellement aller plus loin dans la démarche et pouvoir aussi les accompagner pour pouvoir formuler, pour pouvoir verbaliser un pas de foi.
C'était un vaste programme, vous pouvez le voir. Alors, on avait des équipes un peu en tout genre, parce qu'il y avait l'équipe qui allait dehors, mais il y avait aussi l'équipe d'accueil, parce que chaque fois qu'on se retrouvait à l'église, il y avait non seulement les gens qui avaient été dehors, mais il y avait les autres personnes des autres églises qui venaient les soutenir. On avait une équipe repas qui nous a amenés de repas midi et soir. On avait une équipe intercession qui, depuis l'été, avait commencé de prier et d'intercéder. Et qui, pendant cette semaine-là, certaines personnes pour les plus âgées étaient chez eux et d'autres venaient dehors avec nous. Chaque fois que nous sortions, nous avions une ou deux personnes de l'équipe d'intercession avec nous. Sur le verset qui dit « Le terrain que vous foulerez, je vous le donnerai », ces personnes priaient sur la place où nous étions pendant que les autres parlaient et évangélisaient. Pour beaucoup d'entre nous qui sommes sortis durant cette semaine ou qui nous sommes engagés dans les différentes équipes, notre vie avant ressemblait à celle de Simon-Pierre avant sa rencontre avec Jésus ou à celle de Moïse durant son service. Pour Simon-Pierre, après une nuit de pêche, il n'avait rien eu, il en avait certainement ras-le-bol, il était certainement frustré, il n'avait qu'une envie, c'était de rentrer chez lui. Il était fatigué, il ne voulait plus voir personne. Moïse, quant à lui, il avait d'autres choses à faire. Il avait ses brebis à aller s'occuper et sa famille et tout. Et il n'avait pas très envie d'aller se faire attraper par les Cananéens ou les Amoréens et tout si quinti. Il n'avait pas trop confiance non plus. Hein. Il dit, si tu ne marches pas avec nous, moi j'y vais pas. Hein.
Nous aussi. Nous avons aussi nos vies, nos obligations familiales, professionnelles, sociales et autres. Des agendas bien pleins, sûrement, des journées harassantes. Et nous aussi, nous avons tendance à faire et être pareil, parfois, que Simon-Pierre, ou que Moïse, d'ailleurs. Nous doutons, nous ronchonnons, nous nous plaignons. Mais comme Dieu avait un plan pour Moïse et pour Simon-Pierre, il en avait aussi un plan pour nous pendant toute semaine, pendant toute cette semaine. Évangélisation.
Nous avions parmi nous durant cette semaine une jeune fille, 30 ans, qui s'appelle Lucille. Lucille n'était jamais sortie évangéliser. C'était difficile pour elle de parler de Dieu en dehors de l'assemblée. D'ailleurs, elle avait prévu de partir en vacances. Elle s'est dit, moi je vais partir en vacances, comme ça je ne serai pas là et ils ne vont pas me demander d'y être. Et puis les semaines qui ont précédé, Elle s'est rendue compte que cette pensée n'était pas très, très proche de la pensée de Dieu. Elle s'est sentie interpellée par Dieu. Alors elle s'est d'abord inscrite pour amener les repas. Elle m'a téléphoné, elle m'a dit « Ouais Sylvie, écoute, je vais m'inscrire pour amener les repas parce que tu sais, moi, aller dehors, c'est pas mon truc. » Alors j'ai dit « Pas de problème, voilà, on a discuté, je l'ai inscrite sur la liste des repas. » Elle m'a retéléphoné. Ouais, écoute, je m'inscris pas pour sortir, mais je viendrai un petit peu voir comment vous faites. Et puis finalement, Lucille est venue sur les terrains avec nous une matinée. Puis elle est venue une deuxième matinée. Puis après, elle est venue une journée entière. Et dimanche dernier, alors que nous étions encore à l'église et que je prêchais et que Lucille témoignait, elle nous a expliqué comment elle s'était sentie remplie de la grâce de Dieu et de son amour. Comment, pendant qu'elle était sur le terrain, elle a été enrichie d'aller à la rencontre de ces personnes qu'elle ne connaissait pas et qui ne croyaient pas en Dieu. Comment elle les a vus émus d'entendre parler de l'amour de Dieu. Comment Lucille a été restaurée par la communion entre les frères et sœurs, par les temps de messages, de prières, de louanges que nous avons eus le soir. Et elle a fini son témoignage en disant être libérée de la peur de parler de Jésus et que pour elle, cette campagne d'évangélisation n'a été qu'un début. Lucille a choisi d'obéir à la voix de Dieu qui lui disait d'aller à la pêche. Elle a fait confiance au Seigneur et Dieu a répondu à son obéissance comme il avait répondu à celle de Simon ou à celle de Moïse. C'est cette obéissance qui a changé la vie de Simon, de Moïse et qui a changé celle de Lucille. Désormais, la prochaine campagne d'évangélisation, elle sera dehors. Aucun d'entre eux n'a compris tout de suite ce qui se passait. Il leur a fallu du temps, comme à nous tous. Ils n'ont pas eu une vie parfaite. Ils ont encore fait des erreurs. Moïse n'est finalement pas rentré dans le pays promis. Il l'a vu que de loin. Et après l'arrestation de Jésus, Pierre, il l'a renié. Il l'a même renié 3 fois.
Et Dieu savait tout ça. Mais il ne voyait pas que ça. Dieu, il voyait au-delà d'eux. Il voyait au-delà. Il savait quel serviteur, quel type de disciple, Moïse, Simon, Pierre, allait devenir. Dieu ne regarde pas à nos infirmités, et heureusement, il ne regarde pas à nos difficultés, nos erreurs passées, nos péchés, nos échecs. Sachez que les péchés commis ne sont pas, devant Dieu, disqualifiants pour lui servir, parce qu'il voit notre cœur.
Dieu voit notre cœur. Amen. Et dans sa parole, il nous rassure. Il nous dit, n'aie pas peur. Et je ferai passer devant toi toute ma bonté.
Dieu a appelé Simon Pierre et Moïse à se lever. Et eux deux, tous les deux, cessons de lever.
Alors peut-être vous vous dites, ils sont gentils là, Pedro et Sylvie, mais... Moïse et Pierre, ben c'était Moïse et Pierre, hein. Et nous on n'est pas Moïse et Pierre. Alors à Pedro va nous parler de Noémie.
Oui, de Noémie, une jeune fille de 13 ans. Oui, une jeune fille de 13 ans. Jamais, elle n'avait jamais évangélisé. Sa présence a permis de toucher des jeunes. Bien sûr qu'elle n'est pas sortie toute seule, on était en binôme, donc elle était accompagnée par un adulte. Et un petit résumé de quelque chose que Noémie a témoigné dans cette semaine d'évangélisation. Elle nous a dit que... Et elle nous racontait en fait une petite histoire qu'elle a eue dans un témoignage avec un jeune homme, à peu près de 20 ans, qui pensait que lorsqu'il mourait, son corps se séparait en milliers de particules, en milliers de cellules qui se répandaient un peu partout dans le monde. Et à ce moment-là, il y a eu un échange entre elle et l'adulte, bien sûr, qui l'accompagnait, et cette personne, ce passant. Et après un temps de discussion avec Noémie et l'adulte qui les accompagnait, ce jeune a accepté la prière. Et finalement, il n'était plus très sûr de sa théorie. Il avait été touché par cet échange avec Noémie. Il avait été interpellé par l'amour de Dieu dont parlait Noémie.
Noémie, 13 ans, témoignait de sa relation avec Dieu, de l'amour de Dieu. Ce jeune homme a été touché. C'est avec des êtres comme Moïse, comme Pierre, comme Lucille, comme Noémie, sincères, dévoués, obéissants malgré la fatigue, malgré la timidité, parce que Noémie est une jeune fille très timide, malgré son jeune âge, que Dieu veut construire son église. Dieu ne veut pas nous donner la fortune, il ne veut pas nous rendre invincibles. Il n'attend pas de nous que nous entrions dans sa vie. Il attend que nous le laissions rentrer dans la nôtre.
Il attend que nous acceptions Jésus, le Christ, comme notre Seigneur et Sauveur, c'est sûr. Mais pas de manière superficielle, mais vraiment en profondeur. Dieu veut que nous soyons des êtres transformés par son amour et qui reflètent sa gloire.
Des êtres transformés par son amour. Parce que Dieu nous aime. Il nous aime non pas à cause de ce que nous avons fait, ni à cause de ce que nous n'avons pas fait d'ailleurs, ou à cause de ce que nous serions encore capables de faire. Mais Dieu nous aime parce que, comme nous le rappelait Cédric tout à l'heure, il nous a tissés dans le ventre de notre mère. Il nous connaît depuis avant notre naissance. Déjà avant, il nous appelait par notre prénom. Dieu nous aime de toute éternité. Il est présent dans nos vies et il veut que nos vies reflètent sa gloire.
Tout à l'heure, on a chanté de se tourner vers Dieu. Là, ce matin, nous invitons à se tourner vers son amour. Lorsque nous réalisons cela et son amour pour nous, croyez-moi, nous ne pouvons pas rester indifférents à ce qui se passe autour de nous, aux personnes qui nous entourent, ni à la foule autour de nous qui a soif, croyez-moi, on a pu vraiment le vivre cette semaine d'évangélisation en Suisse, qui a soif de la parole et même surtout de l'amour de Dieu.
Nous avions parmi nous Monique et Marc. Monique a plus de 70 ans, Marc a 40 ans. Ils étaient de deux églises différentes. Enfin, ils sont toujours de deux églises différentes. Ils ne se connaissaient pas quand ils sont arrivés là. Monique et Marc n'avaient jamais réellement évangélisé. Son mari, à Monique, depuis près de 40 ans, évangélise la ville de La Chaux-de-Fonds. Il va tout seul, comme ça, avec son sac à dos et ses Bibles. Mais en général, il y va seul. Monique, elle reste à la maison, elle prie. Des fois, elle l'accompagne dans la rue, mais elle ne parle pas. Elle se contente de sourire et de prier. Elle ne parle pas. Marc, il avait fait quelques campagnes d'évangélisation, mais il est plutôt du genre à distribuer les tracts, ou bien à la soupe. Ensemble, ils sont partis sur le terrain. Ils faisaient partie du même binôme. Ils sont allés à la pêche, eux aussi. Ils ont rencontré un homme de couleur, un homme d'Inde, donc un Indien d'Inde, enfin je ne sais pas trop comment on dit, mais un homme d'Inde. Un homme qui était meurtri par le racisme et la maltraitance qu'il avait vécu. Meurtri au point que non seulement il haïssait les autres, mais il se haïssait lui-même. Il n'avait plus du tout d'amour pour lui. Avec ce mouvement, The Turning, qui veut dire le virage d'ailleurs, on avait un peu pour mission de parler avec les gens 10 minutes maximum. On allait à l'essentiel. Dieu vous aime, il a un plan génial pour votre vie. On leur expliquait les divers passages sur la mort pour ceux qui ne croyaient pas en lui. On priait pour eux et hop, on repartait. L'idée était de ne pas polémiquer, de ne pas rentrer dans « Ah, vous n'êtes pas chrétien, c'est pas bien ». Non, non, on leur parlait de l'amour de Dieu. Et après, voilà, ceux qui étaient d'accord, eh bien, on pouvait les revoir. On leur proposait une nouvelle rencontre pour continuer la suite. Quand ils se sont trouvés face à cet homme, Marc et Monique, ils ont vraiment eu à cœur de s'asseoir sur le banc avec lui et de l'écouter tant qu'il le faudrait. Ils ont passé pratiquement toute l'heure avec lui sur le banc. Ils l'ont écouté. Cet homme a parlé. Cet homme a déballé. Il a vidé son sac. Il a vidé son fardeau. Ils lui ont parlé de l'amour de Dieu. Et quand est arrivé le temps, ils lui ont proposé de prier avec lui. Cet homme a accepté. Et quand ils lui ont demandé pourquoi est-ce qu'il voulait qu'il prie, cet homme a demandé l'amour de Dieu et à ce que Dieu lui ôte toute cette haine dans son cœur. L'amour. Cet homme voulait recevoir l'amour de Dieu. Il était prisonnier de la haine et du rejet. des liens puissants qui l'enfermaient dans la solitude, dans la peur. Il a pu le reconnaître et il a pu demander à Dieu d'être délivré. La prison, les liens peuvent être définis comme étant toutes les situations difficiles que nous traversons, l'oppression que nous subissons, le rejet. Nous pouvons nous aussi être enfermés, ligotés par des attitudes d'apitoiement sur nous, de rancœur, d'amertume, par des peurs, par le rejet, par le mépris, etc., etc.
Quand nous sommes dans une prison, quelle que soit, parfois nous pouvons avoir l'impression que Dieu nous a abandonnés. Hier, dans le culte, dans la maison d'arrêt de Bonneville, il y a un homme qui, à un moment donné, était ému. Et il nous a formulé ceci. Il nous a dit, « Je suis ému de savoir qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas. » Et il ne parlait pas de nous. Je pense qu'il parlait de vous et il parlait de l'action biblique. Même. Il était ému qu'on puisse l'aimer sans le connaître. Parfois, on a l'impression que Dieu peut nous abandonner. Mais ce n'est pas le cas. Et le doute commence à gagner notre cœur. Ne laissons pas à Satan faire ça.
Lorsque le doute commence à gagner notre cœur, nous pouvons nous éloigner de Dieu. Ou bien, il y a un autre doute, hein. Des fois, on considère qu'on a tout, qu'on n'a pas besoin de lui. Et celui-ci aussi nous éloigne de Dieu. Mais lorsque nous réalisons à quel point Dieu nous aime, à quel point nous trouvons en lui un Père, à quel point il marche avec nous, nous pouvons enfin nous sentir aimés et transmettre son amour autour de nous. Et lorsque nous nous unissons ensemble, les uns avec les autres, ensemble, nous devenons une église vivante, une église en marche, une église qui porte l'amour de Dieu, une église qui apprend à connaître Dieu et à le servir, une église qui prend ses racines tout au fond de l'amour de Dieu, son Père, ce Père qui nous attend. Un Père dont la puissance brise les fondements des prisons et rompt tous les liens. Nous devenons une église qui se lève, car elle sait qu'elle n'est pas orpheline. Une église qui entre dans l'obéissance et dans le service, comme l'ont fait Moïse, Simon-Pierre, Noémie, Lucille, Monique, Marc et toutes les autres personnes dont nous pourrions vous témoigner, qui sont sorties, qui ont agi, qui ont servi durant cette semaine d'évangélisation. Car durant cette semaine, nous avons vécu l'unité, l'amitié, la fraternité, mais aussi la présence de Dieu, comme jamais nous ne l'avions vécu avant et comme jamais nous avions imaginé que nous allions la vivre. Et là, Pedro va nous donner son témoignage.
Comme les scripts qui nous avaient été proposés, je vais aller à l'essentiel. Quand Sylvie m'a fait part de cette invitation d'aller participer à cette campagne d'évangélisation, je lui ai dit oui, j'aimerais bien. Et après, il y a eu un moment où je carrément dit non, tu sais, je ne vais pas pouvoir y aller. Et finalement, les portes se sont ouvertes et j'ai pu m'y rendre à la Chaux-de-Fonds. Et j'étais partant parce que dès qu'on a la possibilité d'aller témoigner, d'évangéliser, je suis partant. Je me suis dit, ça va me permettre aussi de connaître l'église de Réveil à la Chaux-de-Fonds. Ça va me permettre aussi de passer un peu plus de temps avec Sylvie et mieux fraterniser, passer du temps ensemble, connaître une autre culture, savoir comment ça se passe aussi ailleurs. Et j'ai été vraiment touché ce qui s'est passé cette semaine. Moi, je comptais rester jusqu'à mercredi et de façon abrupte, j'ai dû revenir mardi soir. Et à ce moment-là, j'ai témoigné de ce que je vais vous partager maintenant parce que je ne savais pas que j'allais revenir. Et vendredi soir, j'ai senti vraiment cet appel à revenir. Et samedi matin, je me suis rendu à nouveau à la Chaux-de-Fonds. Mais cette fois-ci, ce n'était pas simplement par une simple curiosité. qui est un petit peu ce qui m'avait porté, même si je tiens à évangéliser. C'est parce que je voulais goûter à nouveau ce que j'avais goûté cette semaine avec eux. Et mon témoignage, c'est tout simple. On a beau à planifier, à organiser des choses, à faire preuve de tout ce que vous voulez. Mais si Dieu n'est pas au cœur, ce que nous faisons, si nous ne savons pas l'amour de Dieu en nous pour aimer les autres tels que Dieu il nous a aimés, ça ne sert à rien. Ça, c'est ma conclusion. Ça, c'est mon expérience de vie. Et croyez-moi, en 30 ans de ministère, et en tant qu'aumônier et dans d'autres ministères, j'ai pu faire l'évangélisation et je disais à Sylvie, à Nicolas, le pasteur là-bas, et à d'autres frères, parce que c'était vraiment intercommunauté. J'avais pu évangéliser dans différentes langues, différents pays, différentes cultures, mais c'est que j'ai pu vivre cette semaine là-bas, c'était vraiment spécial. Et j'ai voulu retourner pour regoûter. Et je finis avec un petite anecdote, témoignage. Samedi, on est sorti avec Sylvie. Il y a eu on s'est contacté, mais à un moment donné, on n'a pas pu se contacter. J'ai mon téléphone, j'avais plus de batterie, etc. Mais finalement, on a pu sortir. On a eu des barrières pour sortir, mais finalement, on a pu sortir. Et à un moment donné, on était dans le marché. Et tout à coup, on marchait tous les deux après avoir abordé des personnes déjà. Et tout à coup, je vois un instant là, un monsieur qui tenait un instant, il s'était marqué ceviche. Alors ça m'a interpellé parce que le ceviche, c'est un plat typique péruvien, chilien. Donc on s'est adressé à ce monsieur-là, qui d'ailleurs, je me suis dit, il n'est pas vraiment typé péruvien parce qu'il était un grand blanc de maître, yeux bleus. Bon. Mais il était bolivien. Bon, il était péruvien, pardon. Et du coup, à ce moment-là, il commence à nous proposer différents. Mais il n'y avait que le ceviche, il y avait d'autres choses aussi, des plats typiques péruviens. Et donc, je commence. Et Sylvie me dit, mais qu'est-ce que c'est que ceci? Qu'est-ce que c'est cela? Et des petits plats typiques indiens de chez nous. Et du coup, je commence à expliquer à Sylvie qu'est-ce que c'est le ceviche. Je suis en train comme ça à parler à Sylvie, qu'est-ce que c'est le ceviche, un poisson mariné, etc., etc., etc. Et à un moment donné, monsieur, de l'autre côté, il me coupe, il me dit, vous savez, arrêtez de lui expliquer qu'est-ce que c'est un ceviche. La meilleure façon pour qu'elle puisse comprendre qu'est-ce que c'est un ceviche, c'est le... Voilà la réponse. Donc c'est vrai. C'est important de préparer, c'est important de connaître la Bible. Tout ça, c'est important, je ne dis pas le contraire, je ne suis pas contre, au contraire. Mais à un moment donné, l'essentiel, c'est goûter l'amour de Dieu. Je vous invite à vivre, à essayer de goûter cet amour de Dieu en nous d'abord. Pour être un ambassadeur de l'amour de Dieu vis-à-vis des autres. Le premier jour, je suis sorti avec Lucille, cette fille qui a été tout à l'heure décrite, comme quelqu'un qui n'avait aucune expérience. Et moi, après, j'ai dit à Sylvie, mais tu m'as trompé là, cette fille, elle a tout ce qu'il faut. Elle a dit qu'elle n'a pas d'expérience, mais à un moment donné, Lucille m'a dit, tu sais, Pedro, tu vas devant, moi je reste derrière toi pour apprendre. Et je lui ai dit, tu sais, Lucille, entre nous, il n'y a pas de hiérarchie. Parce que c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Et nous essayons de rentrer dans son mouvement. Et voilà, elle s'est laissée porter. Elle avait l'essentiel. C'est qu'elle aimait Dieu et elle aimait aussi son prochain. Et c'est ce qu'il nous faut.
Nous avons goûté à l'amour de Dieu. Et nous avons fait goûter l'amour de Dieu aux autres autour de nous. Ça a été incroyable. Une semaine où... nous étions une équipe de leaders, on avait été formés depuis plusieurs mois pour sortir, hein. Et puis après sur le terrain, on formait les autres à sortir, à aller donc dans la rue. Et on a vu des leaders qui avaient l'habitude. Pedro parlait avant de Nicolas, qui est le pasteur de l'église de Réveil, donc 8 ans de pastorat ou de pasteur stagiaire, donc déjà des campagnes d'évangélisation, qui le premier jour, il nous l'a dit dimanche, quand il est arrivé là dehors, il avait la trouille. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Paniquer, le truc à la main, qu'est-ce qu'on va faire? On a vu des leaders trembler. On a vu des gens timides arriver qui diraient, moi, j'irai pas. On a vu des personnes de l'équipe d'intercession venir le matin, arriver en disant, nous, on est l'équipe d'intercession, donc on va vous accompagner pour prier. et le soir témoigner qu'elles avaient évangélisé et qu'elles avaient partagé l'amour, elles aussi. On a vu des gens qui ne connaissaient pas Dieu être touchés par l'amour de Dieu. Et on a vu des chrétiens de diverses églises se réconcilier les uns avec les autres. On a vu l'œuvre de Dieu et l'amour de Dieu à l'extérieur et à l'intérieur. À l'intérieur. Moi, je peux vous dire, je ne vais pas tout vous dire, parce que quand même, il faut que j'en garde un peu, pour la prochaine fois aussi. Mais avec ces églises, vous savez comment c'est, hein, les églises, des fois, on se tire un peu dessus, et on n'est pas toujours d'accord. Et à la Chaux-de-Fonds, comme ailleurs, il y a des églises qui se sont tirées dessus, qui n'étaient pas très d'accord, et peut-être quelques membres et quelques responsables. Et là, on les a vus ensemble. Le premier jour a été un peu froid, comme à la Chaux-de-Fonds d'ailleurs, mais après, on les a vus ensemble. Et on a vu des personnes qui ne s'étaient pas adressées la parole depuis des années se serrer dans les bras à la fin de la semaine et s'embrasser et se bénir. On a vu de tout. Et à travers les témoignages qu'on vient de vous donner et tous ceux qu'on pourrait vous donner encore, on peut voir que rien, ni l'âge, ni la peur, ni le manque de confiance en soi, ni la distance, puisque Pedro a fait presque 600 km, puisque du coup il en a revoulu et il est revenu plus de 600 km pour venir, rien, aucune frontière, aucune langue. On a eu des gens qui ne parlaient pas français. Le jour où Pedro est sorti, on a eu des gens qui parlaient portugais. Pedro parlait portugais. On a eu des jours où la famille africaine qu'on a, enfin les familles africaines, on a la Corne d'Afrique là, des Érythréens, voilà. On a un groupe d'Érythréens dans notre église. Un jour, ils sont sortis. Et bien, ce jour-là, on a eu des Africains, des Érythréens et des Éthiopiens. Et hop, ils ont pu parler. Quand on rencontrait des personnes qui ne parlaient pas la langue française, on avait les personnes qui parlaient la langue. Je vous assure, quand on est rentré dimanche dernier avec Pedro, lundi, on s'est téléphoné parce qu'on ne savait pas si on avait rêvé ou si on l'avait vécu. La présence de Dieu était telle, il marchait tellement à nos côtés qu'on s'est senti, vous savez, comme Moïse quand il va sur la montagne et qu'il est dans la présence de Dieu. Enfin, on imagine que quand il est redescendu, il a dû se dire, 40 jours là-haut avec Dieu, il a dû se dire, c'est tout plat un peu, c'est tout fade ici, hein. C'est bizarre, je me sens bizarre. Eh bien, c'était comme ça. On a pu voir à quel point rien n'arrête Dieu. Parce que Dieu, il veut sortir l'or qui est en nous. Il veut extraire de nous cette petite pépite d'or là qu'il a placée. Les dons, les talents, le service, etc., etc. Ce qu'il a placé en nous là, Dieu, il veut l'extraire. Et rien ne peut nous empêcher de devenir des témoins du Christ et des serviteurs de Dieu.
Rien, sauf notre propres barrières, nos peurs, nos doutes, parfois nos agendas trop remplis, et bien d'autres choses qui simplement sont nos propres barrières.
Toutes ces choses que nous refusons de céder à Dieu, seules ces choses peuvent nous empêcher de le servir. Seules ces choses peuvent nous éloigner de lui, mais de sa part à lui. Rien ne peut l'arrêter.
Rien ne peut l'arrêter parce que la présence de Dieu, c'est une puissance qui nous rend forts, courageux, fermes aussi dans le combat, dans le service. Et comme dit Romain, il nous rend pas seulement vainqueurs, il nous rend plus que vainqueurs. Et notre foi, elle devient, quand la présence de Dieu est avec nous, notre foi devient inébranlable. La présence de Dieu est une puissance qui nous fait traverser l'épreuve et qui nous conduit ensuite à des temps de bénédiction.
Seuls, nous ne sommes rien. Seuls, nous sommes des êtres complètement ordinaires. Mais ensemble et avec Dieu, nous devenons des êtres extraordinaires. Extraordinaires qui sommes capables de nous lever pour servir Dieu. Durant une semaine, Nous avons prié pour une centaine de personnes. Une semaine, c'est-à-dire nous sortions une heure par demi-journée, ça fait à peu près 13 heures. Nous avons prié pour une centaine de personnes. Nous avons eu quelques prières de conversion, une centaine de prières de bénédiction, et nous avons quelques suivis. Quel que soit le service auquel Dieu nous appelle, il a un plan pour nous. Il veut faire de nous des pêcheurs d'hommes. Et pour cela, il marche avec nous. Il nous dit, n'aie pas peur. Et comme l'amour parfait bannit la crainte, son amour parfait anéantit nos peurs. Il anéantit le jugement qui est en nous, celui que nous portons sur les autres et celui que nous portons sur nous-mêmes, si nous le laissons faire son œuvre en nous. Alors, aujourd'hui, nous voulions vous inviter à réfléchir à ces questions. Est-ce que vous voulez être un disciple de Jésus? Oui. Bien. Quel âge tu as? 12 ans. Magnifique. Il a dit oui. Et qu'est-ce qui vous empêche de vous lever? Quelles sont ces choses que vous n'arrivez pas à jeter? Quels sont ces doutes que vous n'arrivez pas à poser? Et qui vous empêche de vous lever? Je ne veux pas de réponse tout de suite. Je vous laisse avec ces questions. Et pendant que le groupe de louanges se met en place pour nous refaire un petit chant qui nous permettra un petit peu de réfléchir, eh bien, je vais juste un petit peu prier. Tu veux prier un peu? Alors, on va prier un petit peu pour vous. Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, te remercier parce que tu fais de nous des fils, des filles, des servantes et des serviteurs. Te remercier parce que rien n'arrête ton amour, rien. Aucune montagne, aucun lac, aucune langue, rien ne peut arrêter ton amour pour nous. Tu es là, tu marches à nos côtés, tu nous le rappelles dans ta Bible, dans ta parole. Tu nous l'as rappelé encore ce matin, tu es présent, tu nous aimes et ton amour est plus fort que nous. Moi, je veux tous nous remettre à toi, Seigneur, tous et toutes, pour que dans ces jours qui viennent, Seigneur, ces temps à venir, tu nous aides. Tu nous aides, Seigneur, à savoir qu'est-ce qui nous empêche de nous lever, qu'est-ce qui nous retient, quels sont nos doutes, quelles sont nos peurs, quelles sont les autres choses qui nous retiennent. Aide-nous, Seigneur, à vouloir toujours plus nous rapprocher de toi, Seigneur, à toujours vouloir plus connaître ton cœur, à goûter ta présence, Seigneur, à ne plus faire de grands blabla, de grands discours, Seigneur, mais juste vouloir nous approcher plus près de ton cœur.
Père, moi personnellement, je veux te remercier, te louer et en même temps, Seigneur, te bénir parce que tu es le roi des rois. Et merci ce que tu as fait et ce que tu es en train de faire parce que ce que tu as commencé en nous, tu ne vas pas l'arrêter jusqu'à ce que ce soit accompli. Que toutes ces barrières que nous pouvons parfois nous-mêmes avoir dans nos vies puissent être, Seigneur, plus des barrières. Que nous puissions, Seigneur, te faire confiance pleinement, sachant, Seigneur, que tu as été le premier à nous aimer. Et en tant que tes enfants, tu es là pour nous aussi, pour nous accompagner à tout moment et partout. Que cet amour qui est en nous, que nous puissions, Seigneur, garder cet amour, cet amour que nous avons connu quand nous t'avons rencontré. Le feu, ce premier amour, puisse, Seigneur, s'enflammer encore en nous pour aller vers les autres et pas les juger, tout simplement les aimer. Donne-nous, Seigneur, la capacité de pouvoir regarder nos contemporains comme toi tu le regardes, comme toi tu les aimes, pour que nous puissions être ambassadeurs de ta parole et aussi de ton amour, pour que toutes ces vies soient transformées, parce qu'il n'y a que ton amour, Seigneur, qui peut les transformer. Merci, Seigneur, d'avoir tout ce qu'il était nécessaire de faire à la croix pour qu'aujourd'hui nous puissions vivre dans cette confiance et dans la certitude que si tu es avec nous, que si tu es au cœur de nous, ce que nous faisons, il n'y a rien qui peut nous empêcher d'avancer
et de faire avancer ton royaume qui s'est approché de nous. Au nom du Christ. Amen.
Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Oui, je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire. Même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu. Je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé ma vie. Toute ma vie, je redirai. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai dans l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. En l'honneur de son nom.